Bonjour, Nirao, et bienvenue sur le 106.6 de Radio Campus pour la 89e édition de Bruit de Chine, une émission préparée et présentée par Françoise Objoie. Il est 12h, passé de 1 minute dans le studio de Radio Campus à Villeneuve-d'Ascq. Il est 19h à Pékin, où il fait moins 2 degrés. Au programme de Bruit de Chine ce mois-ci, musique, histoire et société. Je reçois dans le studio de Radio Campus Hervé Poinas et Nina Nguang. Groupe de rock originaire de Lille, les Mauvaises Langues ont vécu une aventure qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Une tournée de 3 semaines en Chine. Leur dernier CD, Porcelaine, édité chez Véronne Productions, l'autre distribution, et qui vient tout juste de sortir, est un carnet de voyage sonore écrit sur les routes de l'Empire du Milieu, et Hervé Poinas, le bassiste, est dans Bruit de Chine pour en parler. Si on veut d'ailleurs vous voir en live, vous serez en concert le samedi 15 novembre 2014 au Manège, à Aire sur la Lys. Hervé Poinas, bonjour.
Bonjour.
Nina Nguang est étudiante à l'école supérieure de journalisme de Lille. Elle a interviewé Jean-Philippe Béja, le sinologue spécialiste de politique chinoise, à propos des réformes de Xi Jinping et de Deng Xiaoping et de ce feuilleton qui fait pas mal parler de lui en Chine, qui est sorti dans les mois derniers. Nina Nguang, bonjour. Ouais, en fait, Nina, elle n'a pas pris le micro où elle avait l'air de s'asseoir. Donc, en fait, c'était l'autre. Voilà. Bonjour.
Bonjour.
Ah ben, ça ne marche pas toujours. Bon, voilà, ça va marcher.
Bonjour.
Ah oui, voilà. Bon, non, c'est quand même mieux quand ça marche. Bon, allez. Voilà, vous savez presque tout sur l'heure que nous allons passer ensemble. Juste après la musique, rendez-vous avec Hervé Poinas et les Mauvaises Langues, à propos d'une mémorable tournée en Chine et de la sortie de leur nouvel album.
Je suis à Shanghai, je viens de Chongqing. J'ai vu ta grande muraille, j'ai vu tes buildings. Nirao, Xi'an, Chengdu, Tsingtao, Worengao, Xinglai, Chongguo. Chine, 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 est-ce que tu me fais peur? Est-ce que tu me rassures? Chine, 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 oui, je suis au cœur de ta démesure. Oui, tu me bouleverses, oui, je te traverse. Oui, tu me transperces et je danse avec toi. Oui, je t'argiverse et toi tu commerces. Oui, tu me renverses. C'est le tango chinois. Je suis à Jinan, je viens de Tianjin. Je connais le Sichuan et j'ai vu Beijing. J'aime les Hutong, le goût du Baijiu. Mais que dire de Hong Kong et de Macao? Chine, 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 tu te contredis, mais tu me fascines. Chine, 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 oui, tu me séduis, tu bouges les lignes. C'est vrai, tu m'inquiètes, c'est vrai, je m'y prête. C'est moi qui chinoise, toi. toi qui t'embourgeoises, tu te contredis, mais tu me séduis, puis tu m'apprivoises. C'est la valse chinoise. Je te comprends mieux dans le sourire de Sine. Je vois l'empire du milieu qui se redessine. Dans les yeux de Hang, je vois ton avenir. Mais dis-moi, est-ce que je tangue? Est-ce que je chavire? Chine, 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 Chine. Il fallait que j'y aille, tu m'as pris par la taille. Chine, 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 il fallait que je m'en aille. À quand nos retrouvailles? Je ne connais pas la suite. Que feras-tu du monde? Tu vas un peu trop vite. Mes heures sont tes secondes. Je chante ton refrain, danse sur tes machines, un hip-hop de Pékin. La pop mandarine. Chine, 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 Chine. Chine, 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 Chine. Chine, Chine, Chine.
Vous êtes bien sur Radio Campus et vous écoutez Bruit de Chine sur le 106.6 jusqu'à 13h. Nous sommes pour l'heure en compagnie de Hervé Poinas du groupe Les Mauvaises Langues pour parler de la sortie de leur nouveau CD Porcelaine et de leur tournée en Chine. Alors Hervé Poinas, si on rembobine la bande son des Mauvaises Langues, on remonte jusqu'à quand?
On remonte jusqu'en 1998, donc voilà, ça fait 16 ans. À l'origine des Mauvaises Langues, c'est d'abord des copains qui font de la musique ensemble, voilà. Et puis progressivement, les choses deviennent un petit peu plus sérieuses. On laisse les boulots qu'on avait pour faire de la musique à temps plein, voilà, à partir de 2002. Et ça fait maintenant donc 16 ans qu'on est sur la route. C'est le 6e album Porcelaine qui sort. Et c'est une histoire à laquelle on s'attendait pas, en fait. Voilà. C'est quelque chose qui est une pratique amateur de la musique et qui au fur et à mesure devient un groupe professionnel. Voilà, qui tourne dans toute la France et même dans le monde entier, puisqu'effectivement on est allé en Chine en 2013.
En tout cas, c'est une belle aventure et une sacrée longévité.
Oui, on a une toute petite fierté, c'est d'être encore là.
Voilà. Oui, voilà. Ça. Vous écoutiez quoi à l'époque où vous avez fondé ce groupe?
On a toujours eu des goûts musicaux assez différents les uns les autres. Le trait d'union entre les musiciens des Mauvaises Langues, c'est plutôt dans la démarche artistique, c'est-à-dire d'écrire des chansons qui sonnent dans leur plus simple apparat, c'est-à-dire mélodie, texte et harmonie. Voilà. Donc ça doit sonner guitare-chant pour que ça arrive jusqu'à la phase de l'arrangement et qu'après ça devienne une chanson des Mauvaises Langues. Et nous, chacun de notre côté, on écoute des trucs assez différent. Moi, je vais répondre pour moi. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui écoute la musique des années 60, 70. Voilà, à la fois chansons françaises, donc ça peut être Renaud, Bernard Lavillier, des choses comme ça, ou à la fois anglo-saxonne, mais beaucoup de racines anglo-saxonnes, puisque ça sera les Beach Boys, les Beatles, voilà, des groupes des années 70, Led Zeppelin, enfin, les Pink Floyd, plein de choses comme ça. Et bon, j'écoute des nouveautés, mais régulièrement, comme j'ai pas forcément tout le temps le temps d'écouter la musique, je vais plutôt vers les vieilles choses, voilà, que je connais bien.
Les grands classiques.
Voilà.
Alors en fait, c'est le public qui a fait votre succès et qui vous a encouragé.
Exactement. C'est une relation avec le public par l'entremise de la scène, puisque on est un groupe qui se développe par la scène. On a commencé par faire des petits bars, des petites salles, et puis voilà, au fur et à mesure, on a grimpé les échelons. Et c'est bien parce que c'est une relation qui est durable. Voilà, la relation avec le public par la scène et par le spectacle. Les gens nous suivent, voilà. Il y en a qui nous ont connus assez jeunes, et puis maintenant ils ont des enfants, viennent avec leurs enfants. Enfin, c'est une histoire des fois de famille, de suivre les Mauvaises Langues. Et c'est plutôt quelque chose de valorisant, voilà, plutôt que d'être surexposé médiatiquement pendant 6 mois, puis d'être d'un seul coup sous les lumières et puis redisparaître. Nous, on a une progression, voilà, qui est constante, mais qui est assez lente au fur et à mesure. Et c'est plutôt une assise de fond avec un public qui nous suit, voilà, année après année. Moi, j'aime plutôt mieux cette manière-là de faire ce métier plutôt qu'une autre.
Bah, ça permet de durer toute une vie, ce qui est quand même pas mal.
Ouais, c'est pas désagréable.
En tout cas, vous êtes de la génération des cafés musique.
Oui, c'est ça. On a commencé par les cafés musique. On a commencé même au tout début avec Philippe le chanteur par la fac. On était tous les deux étudiants. On faisait des spectacles d'abord de l'école où on était. Et puis après, c'était des reprises, des soirées étudiants où on reprenait des chansons. Et au fur et à mesure, on s'est dit, bon, on va quand même essayer d'écrire nos propres chansons. On va essayer de se lancer dans la grande aventure de l'écriture de chansons. Et c'est resté comme ça.
Et tous les membres du groupe sont autodidactes musicalement ?
Je dirais oui. Philippe le chanteur et moi, oui. Bertrand le guitariste aussi. Maxence le batteur, lui a fait une école qui s'appelle l'école des formations au métier de la musique. Mm-hmm. Mais c'est, je veux dire, à 80% un musicien autodidacte. Voilà.
Ouais, en tout cas, c'est une belle réussite. Alors, 250 000 heures de vol et des bricoles, c'était le titre de votre premier album en 2001. Moi, j'ai l'impression que ça vous prédestinait au voyage lointain. Mais en tout cas, il faut tout de même moins longtemps pour aller en Chine.
Ouais, une petite dizaine d'heures de vol, on va dire, en gros.
Voilà, et on y est.
Voilà, c'est le choc. Enfin, on l'a tous pris comme une claque.
Voilà, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ensemble dans ce studio. C'est parce qu'on a pris le choc de la Chine. Alors, cette tournée en Chine, c'était en mars 2013. Alors, moi, je me suis demandé comment c'était arrivé. Vous avez postulé, on vous a appelé.
Alors, ça s'est passé de manière totalement bizarre parce que moi, j'étais sur la plage, j'étais en vacances au mois d'août. Mon téléphone sonne et j'étais en train de faire un château de sable avec ma fille. Et on me dit, ça t'intéresse de partir 3 semaines en Chine? J'ai dit, bah oui, bien sûr. En arrière-plan, il faut remonter en fait à l'album précédent. L'album précédent a gagné le coup de cœur de l'Académie Charles Cros. Et c'était la deuxième fois qu'on le gagnait. C'est assez rare pour un groupe de l'avoir deux fois. Et les programmateurs de la tournée Mars en folie en Chine ont contacté le président de l'Académie Charles Cros et lui ont demandé, en gros, bah, parmi les gens qui ont été lauréats du coup de cœur, est-ce qu'il y a des gens, à ton avis, qui pourraient correspondre au format de tournée qu'on propose sur Mars en folie. Et 4 groupes ont été proposés. Et après écoute, la direction des alliances françaises en Chine a choisi de retenir les mauvaises langues. Voilà. Donc ça nous est tombé dessus, en fait. Nous, on était au courant de rien et on nous a appelés comme ça en nous demandant si ça nous intéressait. Au début, on a cru que c'était une blague. Puis après, bon, on a vu que c'était sérieux, donc on s'est dit, alors allons-y.
En tout cas, c'est un beau cadeau. Alors, le deal de la tournée, c'était juste de faire des concerts ou de ramener en France de quoi faire un album justement dédié à la Chine ?
Le deal, c'était une tournée, c'était vraiment des concerts. C'était autour de l'idée de la promotion de la francophonie. Donc, on était une sorte de festival itinérant avec 4 artistes. Il y avait des Québécois, une chanteuse qui s'appelle Klopelgag, un Suisse qui s'appelait Junior Chaka, qui était plutôt reggae, et puis un Belge qui s'appelle Benjamin Skos et sa femme Sophie Gallet. Donc il y avait les quatre bras de la francophonie qui étaient représentés. Nous, on représentait la France. Le but, c'était vraiment de faire un spectacle. Mais ça tombait bien pour nous parce qu'on était à la fin de l'histoire de l'album précédent et on était en pleine phase d'écriture, en fait. Alors, on commençait à ramasser les idées, à se relancer dans le processus d'écriture. Et de se retrouver comme ça, loin de la maison, dans un univers assez inspirant, en fait. Et puis, avec beaucoup de transferts, parce qu'on a fait 11 villes, elles sont pas côte à côte. Et donc, on s'est retrouvé.
C'est grand, la Chine.
Voilà. On s'est retrouvé assez souvent dans les avions, dans les trains, dans les gares, beaucoup de temps en transfert. Et là, on a à la fois beaucoup parlé de ce disque, de ce qu'on voulait faire, et à la fois pris pas mal de notes et même, on a pas mal écrit. Donc la chanson Chine qu'on vient d'entendre, elle était finie quand on est rentré de Chine. Paroles et musique, ça avait été fait sur la route. Il y a pas mal d'autres chansons où on avait vraiment jeté toutes les bases de ce qu'allaient devenir les chansons après.
Y compris la musique.
Y compris les musiques, bah oui, parce qu'on est souvent... C'est un métier, on attend beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive dans une salle de spectacle, il est 13h, on joue à 22h. Donc on se balade, ce qu'on a fait pas mal en Chine, mais après on avait du temps dans les loges où on a eu le temps de travailler. Voilà,
Tant mieux. Alors le rôle des alliances françaises en Chine n'était pas que de vous inviter, il a été très important sur place.
Oui, parce qu'ils ont été une sorte d'interface entre nous et le pays, parce que on parle pas du tout chinois. On a réussi à se faire comprendre un peu en anglais, mais pas toujours. On avait sur chaque site et chaque date, on avait des étudiants ou des étudiantes chinoises qui apprennent le français, qui étaient en fait nos anges gardiens, on va dire, pendant toute la période où on était sur place. On avait comme ça la possibilité de discuter vraiment avec les gens qu'on rencontrait. Elle traduisait au fur et à mesure. Soit on rencontrait des gens qui parlaient français, donc parce qu'on a joué pas mal sur les campus avec beaucoup d'étudiants qui parlent très bien français, donc ça a été assez facile. Et après en ville, voilà, je sais pas, qu'on va dans un magasin, qu'on va dans un restaurant, tout ça, là c'était quand même une aide assez précieuse, hein, surtout au restaurant. Parce
que... Ça veut dire que vous n'avez jamais été seul ?
Aussi, moi, on a été assez souvent seul, si, surtout les périodes où on avait des jours de repos. Par exemple, je pense à Shanghai, on était 2 jours. À Shanghai, on était avec l'ingénieur du son qui était avec nous sur la tournée, qui lui est français, mais qui est marié avec une chinoise et qui parle très bien chinois. Donc, qui a été avec nous pendant tout le temps. Mais sinon, on n'a pas été encadré, on va dire, sur place. Moi, j'ai apprécié, on est allé vraiment partout où on voulait. Enfin, Shanghai, on est parti, par exemple, à 7h du matin. Et moi, je suis rentré, il était 2h30. Donc, on a vraiment marché, visité, on s'est perdu dans la ville. Moi, j'aime bien me perdre, j'aime bien ne pas être...
Et en Chine, c'est assez facile.
Oui, ça va, mais c'est... Je sais pas, il y a un côté... Les villes chinoises, je les ai trouvées assez faciles à visiter. C'est pas trop compliqué.
Parce que c'est souvent un plan orthonormé.
Oui,
ça c'est déjà assez.
Voilà, on avait une carte.
Est-ouest, nord-sud.
Ouais, comme aux États-Unis, voilà, on se repère pas trop mal.
Oui, mais enfin quand même, c'est écrit en chinois. Sur...
Ouais.
En règle générale.
Ouais, il y a pas mal aussi de d'indications.
Oui, à Shanghai.
Voilà.
Par exemple.
Dans les grandes, enfin, j'allais dire dans les grandes villes, mais c'est que des grandes villes.
Bon, et puis le métro, c'est vrai qu'il est aussi en anglais.
Ouais, c'est ça. Donc on n'a pas trop galéré.
Ouais, pas cette impression d'immersion dans un monde qu'on comprend pas.
Si, il y a des fois on s'est posé des questions sur ce qui se passait, mais ça a jamais été ça a jamais été une source de mauvaise sensation, voilà. Au contraire, c'est bien des moments d'être dans des endroits où, bon, on voit les gens qui vivent. Ça nous est arrivé à Canton. On est allé dans une réception extrêmement huppée au Sofitel pour la fête de la francophonie. Et on n'avait pas forcément hyper envie d'être là. Et on a demandé à, je crois que ça doit être un chauffeur de taxi, ce qu'il y avait vraiment de moins occidental, on va dire, à Canton. Il nous a marqué un petit sur carte de visite, il nous a marqué un petit mot en chinois. Puis le lendemain, on l'a montré au chauffeur de taxi qui était en bas de notre hôtel. Il nous a emmené là. On s'est retrouvé dans un endroit où on n'a pas vu un seul occidental de la matinée. Et on avait vraiment l'impression d'être... D'ailleurs, je pense que les Chinois qui étaient sur place étaient relativement surpris de nous voir à cet endroit. Là, on a eu l'impression d'être vraiment en connexion avec ce qu'était vraiment le pays. À la fois, je pense que tu as dû vivre la même chose. À la fois, la contradiction entre quelque chose qui restait très attaché aux traditions et à la fois une ville qui est complètement en train de bouger, de changer, de devenir ultra moderne par certains côtés, plus moderne même que des villes comme Paris ou Londres. Et voilà, on a apprécié cette immersion-là.
Ah bah c'est ça le charme de la Chine. Alors, est-ce que vous aviez une idée avant de partir sur la Chine ? Comment vous imaginiez le pays ?
En fait, on avait une idée, je pense, qui était assez biaisée par ce qu'en disent les médias occidentaux. C'est-à-dire que les médias soit présentent comme quelque chose de tellement grand qu'on ne peut pas l'appréhender, et donc un peu comme si on était perdu au milieu d'une immensité. Et puis à la fois, on revient quand même souvent sur la question des droits de l'homme, on l'imagine comme un pays corseté, en fait, où tout le monde est un peu paranoïaque. Enfin, on cultive une paranoïa quand même dans les médias français. Et en fait, on a vécu carrément autre chose. Enfin, moi, je me suis baladé partout sans que personne me dise, voilà, où aller ou ne pas aller. On a fait ce qu'on a voulu. On a parlé à qui on voulait. Les gens parlent avec nous de manière complètement libre. Donc, on n'a pas senti de pression particulière. Et puis, moi, j'ai trouvé au contraire un pays complètement bouillonnant, en fait. On a trouvé qu'en France, les gens étaient tristes quand on est rentré. Ils faisaient la tête, je sais pas. On s'est retrouvé dans une espèce de bouillonnement, de frénésie qui était assez enthousiasmante. Moi, je me suis senti vraiment bien dans ce pays.
Et puis, il y a la jeunesse du pays aussi.
Oui, et puis les gens sont ouverts, en fait. Pour les spectacles, nous, on l'a connu par le biais de la scène. Alors, c'est un public qui nous paraît assez neuf, c'est-à-dire qui donne relativement vite tout ce qu'il a. Et on avait l'impression un peu d'être dans les Beatles dans les années 60. Il y avait une espèce d'excitation dans les concerts. C'était vraiment, pour nous, c'était très stimulant. C'est un super public, hein, vraiment. Les gens qui... je le dis, s'il y a des gens à l'antenne qui ont l'occasion d'aller jouer en Chine, ils vont prendre leurs pieds sur scène parce que c'est vraiment un public excellent. Quoi.
Oui, c'est un bon public. Vous avez été accueillis comme des rois, en fait.
Oui, c'était sur les campus, surtout, où vraiment, à Chengdu, ils n'avaient pas vraiment l'habitude, je pense, de venir voir des groupes sur scène sur le campus. Et c'était carrément déliant. Je sais pas, il devait y avoir 2000-2500 personnes. C'était complètement dingue, en fait. On a filmé ça, on a mis ça sur YouTube. Moi, j'ai filmé tous les soirs le même moment du concert que j'ai mis les uns après les autres. Et il y a des moments, c'est irréel, en fait. C'est voilà, une espèce de masse qui bouge devant nous, les gens qui chantent tous. Et puis après, il y avait... Les alliances françaises ont bien fait les choses parce qu'il y avait tout un moment de rencontre aussi. C'est-à-dire qu'à la fin, on avait l'occasion d'aller soit signer des autographes, soit discuter. Et là, on a rencontré vraiment plein de gens avec qui on a pu essayer de discuter. Ça a fait des soirées un peu à rallonge, mais c'était vraiment super d'être au contact. Quoi.
Alors, quand vous dites que les gens chantaient vos chansons, ça veut dire qu'ils avaient travaillé le texte en français?
Alors, je vais relativiser. En fait, il y avait des chansons qui avaient été programmées sur les radios des campus, par exemple. Donc mm-hmm. là, on sentait, dans la réaction du public, qu'ils connaissaient la chanson par rapport à d'autres. Et puis, on a surtout été astucieux, c'est qu'on a une de nos chansons dont le refrain, c'est se chante, on chante la mélodie en faisant la 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 la.
Ah
la,
oui, d'accord.
Et ça
c'est mieux,
international. Donc, sur les la 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 la, il y a eu une communion, quoi, on va dire.
Même avec l'accent chinois.
Oui, ça c'est très bien passé. Je sais pas ce que ça veut dire la 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 en chinois, mais en tout cas, c'est relativement bien passé.
Oui, ça c'est effectivement universel. On va revenir au début de votre voyage. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez mis le pied sur le sol chinois? Vous descendez de l'avion, vous n'êtes jamais allé en Asie, peut-être, je ne sais
non,
pas.
Non, c'était la première
voilà,
fois.
Première fois, donc quel souvenir vous avez
Je vais être très précis, le souvenir que j'ai, c'est qu'on est sorti de l'avion et qu'on est arrivé, on était tellement content d'être là. En fait, jusqu'à ce que l'avion se pose, on a l'impression qu'on allait se réveiller et que personne n'y croyait. Voilà. Et il nous restait que la douane à passer pour arriver de l'autre côté où on voyait les gens qui étaient venus nous chercher. Et on s'est dit, pourvu qu'il n'y ait pas un problème à la douane, je ne sais pas, qu'il y ait un passeport qui ait un problème dessus. En fait, tout le monde a stressé en se disant, on est à 15 mètres de la tournée, est-ce qu'on va réussir à passer ou pas passer? Avec ce fantasme aussi d'un pays un peu dur.
Un peu fermé.
Voilà, un peu fermé. Non. Et donc, ça a été plutôt de l'anxiété qu'on est arrivé. Et puis après, une fois qu'on est arrivé, ça a été très facile parce qu'on a été pris en charge et tout ça. Et on est un peu comme des enfants, en fait. C'est-à-dire qu'on regarde, ah tiens, c'est marrant, les plaques d'immatriculation, comment elles sont, les enseignes, les gens. Enfin, je sais pas, tout est étonnant. Voilà, on fait peut-être des commentaires assez banals pendant ces premières heures où on est là. Mais l'ambiance, moi, j'ai trouvé très agréable, très détendue, en fait. Je n'ai pas senti... J'ai déjà voyagé dans le monde. Il y a des villes qui sont plus ou moins agressives, des villes où on sent que c'est stressé, c'est tendu, c'est... Voilà.
Lesquelles, par exemple?
Moi, je sais pas. Bah, Paris, par exemple. Voilà, en voilà une. Voilà. Paris, c'est une ville, je trouve, qui est frénétique, qui est pas... Pas prendre le métro à Paris, je trouve que ça a été beaucoup plus simple. En Shanghai, on a pris le métro pour se balader, tout ça, c'était pas...
Ah, tout est plus grand, tout est plus
voilà,
vaste.
Voilà, c'est ça, voilà. C'était plus facile.
Tout est neuf, propre, enfin, tout est neuf.
À Shanghai, oui, dans beaucoup de quartiers. Mais il reste quelques quartiers encore...
Moi, je parlais du métro.
Ah oui, d'accord, le métro, tout est neuf, oui.
Eh oui. Alors, ce premier voyage en Chine, est-ce qu'après, vous vous sentez différent maintenant? Vous êtes rentré, ça fait un peu plus d'un an. Est-ce que vous êtes un homme différent? Est-ce que votre groupe est différent?
Alors, par rapport aux mauvaises langues, oui, parce que, en fait, je pense que c'était la première fois qu'on se retrouvait si loin et si longtemps ensemble. C'est-à-dire que se retrouver 3 semaines, tous ensemble,
beaucoup,
nuit
ouais.
et jour, en plus, à vivre une expérience qui est complètement hors norme par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, des tournées qu'on a l'habitude de faire.
C'est un coup à se fâcher avec tout le monde, ça.
Ben, c'est un bon test, en tout cas. Voilà. Mais, en fait, comme on est un groupe quand même assez qui a un peu de bouteille, voilà, on sait aussi désamorcer les tensions liées à l'éloignement, ce genre de choses. Donc au contraire, ça a vraiment resserré les liens du groupe à ce moment-là. Et je pense que quand on arrive à la fin d'un album comme l'album À ciel ouvert précédent, on est toujours dans une phase de doute. Est-ce qu'on va être capable de refaire des chansons? Est-ce qu'on va être capable de refaire un disque? C'est une grosse période de questionnement. Et ça a un peu apporté une réponse à tous nos questionnements. On s'est dit, mais si on est arrivé à faire ça, si on a réussi à vivre ça ensemble, ça vaut vraiment le coup aussi de continuer et de refaire un nouveau disque et de refaire des nouvelles chansons. Voilà. En plus, comme ça a été inspirant d'un point de vue artistique, ben oui, ça a vraiment changé beaucoup de choses sur la suite du groupe. Après, à titre personnel, ça a changé des choses aussi. Moi, ça m'a ouvert aussi sur l'Asie que je ne connaissais pas. J'ai carrément envie d'y retourner, ça c'est une certitude.
Mais la Chine, c'est vraiment une ouverture sur un monde qu'on n'imagine même pas quand on est en Europe.
Oui, c'est ça.
C'est même au-delà de l'Asie, c'est un peu, moi j'avais l'impression que ça met un peu la tête à l'envers. Quoi.
C'est difficile à expliquer en plus quand on rentre. C'est-à-dire, oui. Les gens vous disent, ah, c'est comment bon, à part les banalités de dire en gros ce qu'on mange, voilà, oui. les gens qu'on a rencontrés, des choses comme ça, mais la sensation d'être sur place.
Bah, une sensation, ça se vit, ça s'explique
voilà.
pas.
C'est
ça,
difficile c'est à le communiquer. Voilà. Ce qui fait c'est le genre de sensation que j'aurais volontiers envie de revivre et puis de passer plus de temps parce qu'on a survolé quand même pas mal de villes. Il y a des villes où on est resté voilà, 36 heures, donc on a rien eu le temps de voir. Ça m'a donné envie vraiment d'y retourner. Tourner et puis d'approfondir, de m'immerger un peu plus dans les lieux. Quoi.
Alors justement, quelles ont été les villes étapes de cette tournée?
Alors, j'espère que...
Non mais j'ai une anti-sèche là sous les yeux.
J'espère que la collègue, notre invitée chinoise, ne va pas m'en vouloir pour l'accent horrible. On est arrivé à Pékin, après on a joué à Tianjin, c'est ça? Après on a joué à Tsingtao, on a joué à Jinan, Pékin... Xi'an, voilà. Chengdu, Chongqing, Shanghai, Hong Kong, Macao, et je ne pense pas
Canton.
En avoir oublié. Et Canton, voilà.
Oui, effectivement, ça fait une sacrée belle tournée. Quelle est la ville où vous auriez envie de retourner?
Moi, j'ai beaucoup aimé Canton. Peut-être parce qu'on
donc
a passé
Chine du Sud, donc.
Voilà parce qu'on a passé pas mal de temps, mais j'ai bien aimé Pékin aussi, qui est vraiment de l'autre côté,
oui.
Voilà, de l'autre côté du pays. J'ai l'impression d'avoir, enfin, c'est pareil parce que nous on voit la Chine de France comme un tout, comme quelque chose qui se réunit. Et en fait, j'ai l'impression que il y a pas vraiment de il y a vraiment des grosses différences entre une ville comme Canton et une ville comme Pékin. C'est comme si on était à Stockholm et si on était à Séville. Donc on a en géographiquement, en tout cas, c'est les mêmes distances. Donc, moi, j'ai bien aimé le côté peut-être Chine méridionale. Ça m'a plu. Voilà.
Les moments marquants de ce voyage.
Un moment fort, c'était le concert à Pékin parce que c'était le concert où il y avait le plus de pression. Il y avait à la fois tous les officiels des alliances françaises qui étaient là, les gens des ambassades. Enfin, donc c'était un concert qui était un petit peu tendu, on n'avait vraiment pas envie de foirer ce concert-là. Et en plus, c'était dans une salle qui est pour le coup, c'était pas une salle étudiante, c'était une vraie salle de diffusion rock où il y avait des, je sais pas, Lou Reed, enfin des gens qui sont passés là, enfin, tout le gratin international passé dans cette salle. Donc ça nous a mis une petite pression et on a fait vraiment un super concert. Enfin, ce soir-là, je sais pas, on était en état de grâce, on était sur un nuage. Et ça a été un moment super, vraiment toute cette soirée à Pékin. Après, il y a eu un after qui a été bien, où on a un peu profité de la vie pékinoise de nuit. Et c'était un super moment parce qu'on a en plus avec il y a un lien qui s'est créé avec les autres artistes de la tournée. Et après ce concert à Pékin, on s'est retrouvé un peu comme une famille sur la route. C'est-à-dire que on a été un peu séparés, on se regardait un peu en chien de faïence jusqu'à ce moment-là où là on a vraiment pu vraiment se découvrir et c'était un super moment. Après, il y a des moments plus personnels. Moi, le temps passé à Shanghai, j'ai vraiment adoré parce que on a eu deux jours off à Shanghai et là j'ai pris mon sac à dos. Il y a même des moments où je suis parti tout seul. Et c'est là que le voyage est le plus fort, je trouve. C'est quand on se perd, en fait. On cherche rien de particulier. Je me dis pas, tiens, je vais aller visiter tel truc ou il faut que je voie tel monument. J'ai pris à gauche, à droite, encore à gauche, à droite. Puis à un moment, je savais plus où j'étais. Et là, c'était vraiment la partie du voyage que j'ai préférée.
Est-ce que vous avez eu le temps d'écouter du rock chinois?
Pas tellement. Ben, pas tellement. En fait, on a été dans certains bars où il y avait des groupes qui jouaient. J'étais un peu déçu parce que j'ai pas eu l'impression d'être confronté à la création typiquement chinoise. C'est-à-dire que on a vu des gens qui faisaient, je sais pas, du R&B américain à la chinoise ou du rock américain ou anglais à la chinoise, mais je sais pas si ça existe, mais je pense que oui, mais on n'a pas été confronté directement à de la création 100% chinoise, c'est-à-dire avec une identité musicale chinoise dans la sphère du rock. On a entendu de la musique, je pense, qui devait être traditionnelle chinoise, mais qui serait liée aux musiques actuelles, mais typiquement chinoise. On est passé à côté de ça.
C'est peut-être quand même que l'influence américaine est très très forte.
Oui, bon, on le sent, ça c'est clair qu'on le sent. Oui. Voilà. Parce qu'on posait souvent la question aux étudiants qu'on rencontrait, qu'est-ce que vous écoutez? Bon, alors 95% des c'était, je sais pas, Beyoncé, voilà.
C'est pas très original, effectivement. Voilà. Non, mais il faudrait y revenir pour aller faire toutes les petites scènes alternatives de rock chinois. Ouais. Alors, vous avez tenu un blog pendant le voyage, et oui. Les connexions Internet, dites-vous, ne sont pas toujours très simples en Chine.
Non, c'est un peu compliqué d'accéder à la fois au Facebook, parce que nous, on voulait alimenter au fur et à mesure du voyage. Donc, c'était pas hyper facile de on avait ouvert un blog qui était pas accessible. Donc, on a un peu grugé. On a envoyé des messages à quelqu'un qui les postait après en France. On les envoyait par mail. Après, c'était posté en France sur le blog. Après, on pouvait vérifier. On demandait à vérifier en ligne. On pouvait pas répondre aux mails qu'on nous laissait sur le blog. Enfin, c'était compliqué. Après, il y a des étudiants qui nous ont dit, mais non, faut prendre un VPN. C'est super facile. Enfin, apparemment, les étudiants chinois ont des profils Facebook. Y a pas de souci. Ils arrivent à contourner les limitations. Mais nous, on n'était pas super au fait. En plus, les connexions dans les hôtels, c'était pas non plus d'une puissance hallucinante. Donc, c'était pas facile. Voilà. Mais on a réussi à le faire.
Et l'Alliance française vous a pas briefé là-dessus? Comment avoir Facebook en Chine?
Non, et, on a été laissés dans l'obscurité de ce point de vue-là.
Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire vos chansons sur les routes de Chine?
Alors, il y a deux chansons. Il y a celle qu'on a écoutée tout à l'heure, Chine, qui est une chanson plus d'impression, c'est-à-dire à la fois le sentiment contrasté d'être dans quelque chose qui nous fascine et quelque chose qui nous fait un petit peu peur parce que c'est un pays qui a l'air tellement puissant puis tellement en développement que je sais pas, on a l'impression qu'on est tout petit en fait quand on rentre, on a l'impression qu'on vient vraiment d'un pays minuscule en fait.
Mais en fait c'est la vérité.
Oui, non, mais le problème c'est que vu de France, on a l'impression qu'on est le centre de la Terre, mais c'est quand on est là-bas, on se rend compte qu'on est un tout petit pays et que finalement, c'est un côté un peu effrayant. Voilà, voilà.
Le vertige peut-être.
Voilà. Et donc ça, cette ambiguïté de sentiments entre fascination et puis un petit peu de peur, c'est un peu ce qu'on retrouve dans la chanson Chine, voilà, qu'on a écoutée tout à l'heure.
Et celle qu'on va entendre après.
Alors Soleil, c'est un vrai personnage. C'est-à-dire c'est une vraie fille qu'on a rencontrée à Tsingtao, il me semble. Et en fait, les étudiants en français, aux Alliances françaises, se dotent d'un prénom français. Ce que je ne savais pas. Parce que
Et quand ils apprennent l'anglais, ils ont un prénom anglais.
Voilà, donc on rencontre, la première chinoise qu'on rencontre, elle dit « Ah, je m'appelle Nathalie ». Là, j'allais dire, moi, c'est quand même bizarre quand même de s'appeler avec eux. Donc, au bout d'un moment, on a compris. Et cette fille qu'on a rencontrée à Tsingtao, qui nous a un peu chaperonné pendant toute la journée, s'appelait Soleil. Et ça nous a paru marrant parce que c'est pas un prénom qui est utilisé en France. Et on a trouvé que c'était vraiment un prénom super joli, en fait. Et qui faisait chinois et français en même temps. C'est-à-dire que ça nous paraissait bien aller à une chinoise. Et puis, comme on a rencontré pas mal de gens, on s'est dit, bah tiens, comme ça sonne pas mal ce prénom, cette chanson Soleil, c'est un peu un condensé de plein de gens qu'on a rencontrés. Voilà, on a parlé de leur vie, on a parlé de plein de choses, je sais pas, de l'enfant unique, on a parlé de choses comme ça. Et on a cousu une chanson de tous ces petits bouts autour de ce personnage Soleil qui existe, qui est pas vraiment décrit dans la chanson à 100%, mais qui est des petits bouts de rencontres sur toutes les routes de Chine. Voilà.
Alors dans votre blog, comment vous avez quand même réussi à poster des choses, vous dites « Nous échangeons encore et encore sur le côté surréaliste de la tournée et la chance que nous avons de découvrir toutes ces villes, parfums, ambiances, couleurs, visages, images, lumières et régions chaque fois différentes. Le dénominateur commun entre ces villes et grands espaces est la sérénité des gens. Jamais nous ressentons de l'agressivité ou de l'hostilité. Les gens semblent paisibles et ouverts. » Alors est-ce que la sérénité des gens, c'est le souvenir que vous retenez de la Chine ?
Oui. Il y a une image qui m'a vraiment marqué. C'est toujours à Canton. On est arrivé dans un grand parc et il devait être 9h du matin. Et là, il y avait, je ne sais pas, des centaines de personnes âgées et des fois très âgées qui faisaient à la fois de la gymnastique, mais qui faisaient des activités autres. Hein. Il y en avait qui discutaient, qui jouaient à des jeux de cartes.
Enfin, il y en a qui chantaient peut-être ?
Oui, il y en avait qui chantaient, il y en avait qui dansaient. Il y avait vraiment plein de choses. Et ça, dans une ambiance assez détendue, quoi, vraiment très cool. Et ça nous a choqués.
Ébranlés, en tout
voilà,
cas.
Ébranlés, parce que nous, justement, le sort des personnes âgées en France, par exemple, est plutôt un sort fermé dans des maisons de retraite, ils sont cachés, en fait. Et en plus, c'est pas du tout tourné vers une forme d'ouverture sur l'espace public. Et quand je les vois, ma grand-mère est en maison de retraite, ça m'arrive d'aller la voir. Franchement, c'est déprimant, quoi.
Alors, on l'imagine pas faire du tai chi dans la rue,
non,
sur la grande place.
Non, franchement.
Ça, c'est vrai.
Et on s'est dit, ils avaient l'air bien, quoi. Voilà, ils avaient l'air contents d'être là, ils avaient l'air de passer un bon moment. Et si je devais mettre une image sur cette sensation de sérénité chinoise, c'est à ce moment-là qu'on l'a senti peut-être le plus fort. C'est-à-dire que là où nous, c'est plutôt l'isolement qui va prédominer, là, on avait vraiment l'impression que c'était ouvert, en fait, et que ce fait d'être âgé, même très âgé, c'était pas coupé du monde. Les gens étaient là avec les autres et avaient l'air de se sentir bien. Et ça, on l'a ressenti après à d'autres moments. C'est vrai qu'on a rencontré personne d'hostile, en fait, ou de gens qui nous ont envoyé balader. Ou à chaque fois, les gens étaient plus ou moins sympas, ou du moins avaient assez de civilité pour pas nous envoyer sur les roses. Donc ça, c'était assez agréable. Je reprends la comparaison avec une ville comme Paris. Les étrangers qui voyagent à Paris, des fois, ils doivent avoir des drôles de sensations par rapport à l'accueil, quoi.
C'est vrai que c'est peut-être plus stressant.
Oui.
En tout cas, j'ai eu la même impression que vous pour les personnes âgées. Et beaucoup de choses se passent dans la rue et les choses ne sont pas cachées.
Oui.
Ils sont dans la vie avec les plus jeunes. Non, c'est vrai que c'est une autre manière de voir les choses.
Après, ça peut être bizarre. Hein. Par exemple, à Canton, on a vu des gens qui se faisaient soigner les dents quasiment dans la rue.
Mais il y a le coiffeur aussi.
Ouais, c'était là, ça nous a paru tout de suite plus étrange.
Dans la rue. Ouais. Oui, c'est étrange, mais ça veut dire aussi que la perméabilité entre l'espace privé et l'espace public nous paraît, différente. Après, il faudrait voir la réalité, vraiment. Mais la première impression, c'est vrai que tout paraît beaucoup plus ouvert.
Mmh. Et à la fois la sensation de voir un monde qui disparaît aussi. Parce que les vieux quartiers de Shanghai sont en train d'être rasés. Enfin, on a traversé des espèces de quartiers fantômes où tout est muré et puis on voit les immeubles sont en train de se monter les uns derrière les autres. Donc j'imagine que les gens qui vont vivre dans ces immeubles de 35 étages ou de 40 étages, ils vont pas avoir la même vie que ceux qui vivent dans les petites maisons avec l'ouverture sur la rue et sur le reste, quoi.
D'autant plus que là, vous y êtes allé en mars 2013, mais le quartier que vous avez vu, il n'existe plus. Et puis il n'existait plus au bout de 3 semaines déjà. En tout cas, Hervé Poinas, merci. Je rappelle que votre dernier CD, Porcelaine, est dans les bacs depuis le 10 novembre et qu'il raconte votre histoire d'amour avec la Chine et que tout de suite, nous allons donc écouter Soleil.
La nuit de Chine, comme les millions d'élèves d'un matin qu'on devine, ses cheveux se soulèvent. Elle se masse les chines, déjà son miroir lui sourit. Soleil, maintenant loin de ses rêves, dans les rues qui s'animent, où coule comme une sève un milliard d'anonymes, un pays que la fièvre. L'argent fou fascine, déjà les passants lui sourient. Elle se redresse fière de plonger ses racines dans cette vieille terre, ce géant qui trépigne. République populaire, tes fantômes ont le spleen. Déjà les statues lui sourient, on l'appelle soleil. On l'appelle soleil. Des années de gamine, une enfant solitaire, un frère qu'elle imagine, une façon de se taire, de bien suivre la ligne. Déjà ses parents lui sourient, un écran de lumière lui donne des consignes. Le premier secrétaire, sa parole divine, le chemin que ses pères ont tracé vers les cimes. Déjà le parti lui sourit, on l'appelle soleil, on l'appelle soleil. Soleil, regarde vers la mer, dans le jour qui décline, les portes containers partant pour nos vitrines, la France de ses rêves, Paris qui s'illumine. Déjà le monde brise légère, ses courbes se dessinent. Un battement de paupières, son corps de ballerine. Ses cheveux se libèrent, trésor qu'on imagine. Déjà les hommes lui sourient. On l'appelle soleil. On l'appelle soleil. Soleil dans la nuit qui s'achève. Me parle de la Chine. Une rencontre brève dans le cœur de Beijing. Une douce parenthèse. Une lointaine voisine. Cette fois c'est moi qui lui souris. On l'appelle soleil. On l'appelle soleil. On l'appelle soleil. Je l'appelle soleil.
Chine sur Radio Campus Lille sur le 106.6 jusqu'à 13h. Étudiante à l'école de journalisme de Lille, Nina Nguyen nous livrera dans quelques instants sa chronique consacrée à Xi Jinping. Mais comme nous avons aujourd'hui un petit peu plus de temps, nous en profiterons pour diffuser son interview du sinologue spécialiste de la politique chinoise, Jean-Philippe.